Comme chaque jour à 13h15, nous allons nous promener quelque part en France en compagnie de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Alors Franck, nous étions hier en Lorraine. Est-ce que nous y retournons aujourd'hui?
Bien sûr que nous y retournons. Nous aimons ça, nous les Mirabelles et, toutes les bonnes choses de Lorraine. Et pour ce deuxième périple à travers la Lorraine, c'est dans la partie la plus orientale de la Moselle que je vous propose de nous retrouver. Nous allons plus précisément sur le site de la citadelle de Beach. Alors pour vous situer un petit peu, nous sommes là en lisière du parc national, du parc naturel régional des Vosges du Nord, dans la pointe avancée de la Lorraine, si vous voulez, dans ce petit coin qui est au nord-ouest de l'Alsace, à quelques kilomètres seulement de la frontière allemande et de la Rhénanie-Palatinat. Beach, au départ, c'était une citadelle de Vauban. Vous allez dire, tiens, ça fait un moment qu'il ne nous avait pas parlé de Vauban. Ben, évidemment, Vauban est coupable dans cette affaire. C'est lui qui avait, juste après la campagne de Hollande, en 1679 et jusqu'en 1681, construit cette citadelle de Beach. Elle a été rasée ensuite, pendant le règne de Louis XIV même, rasée en application des termes de la paix de Ryswick. On est là à la toute fin du XVIIe siècle, en 1697, et puis, 50 ans plus tard, Louis XV a rebâti la citadelle de Beach. Il faut dire qu'on est là dans une position ultra stratégique. C'est une citadelle qui commande à tous les environs. Le chapitre le plus fameux de son histoire, il a été écrit lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Dans cette citadelle, le commandant Tessier et ses hommes ont résisté aux Prussiens, tenez-vous bien, jusqu'au 27 mars 1871. Je vous rappelle quand même que l'armistice avait été signé depuis le mois de janvier. C'est-à-dire que bien après l'armistice, le commandant Tessier est là, il attend, et il attend quoi ? Un ordre de son gouvernement de se rendre. Or, il n'y a plus vraiment de gouvernement en état de lui donner des ordres. Cet ordre, en tout cas, il va l'attendre bien longtemps, jusqu'à ce que les Prussiens prennent définitivement possession de la citadelle après la signature définitive de la paix. Si je vous parle de Beach aujourd'hui, c'est que la citadelle vient de rouvrir au public depuis environ un mois et demi. Il faut dire qu'elle a subi de très gros travaux. Depuis 2004, tout le site a fait l'objet d'une restauration majeure. Quand je dis subi, je devrais dire qu'elle a plutôt bénéficié de ces travaux. Les différents bâtiments qui dominent tous ces magnifiques remparts, hein. Imaginez des remparts étoilés, bien sûr, on est exactement dans le type des constructions de Vauban, en grès rouge, tout ça très imposant, très magnifique. Tous ces bâtiments, ils viennent de retrouver leur aspect d'origine. Je pense notamment au corps de garde supérieur, à la chapelle de la garnison, à la caponnière, c'est-à-dire cet ouvrage fortifié qui fait la liaison entre le corps central de la forteresse et puis son corps avancé qu'on appelle la petite tête. Eh bien, la caponnière de la petite tête a été restaurée également. Et quand je dis restaurée, tout ça a été remis dans un état magnifique. Et pour faire bonne mesure, on a remanié également le petit musée historique, on a mis en valeur le plan relief de la citadelle et de la ville de Beach par la même occasion, et puis, initiative très originale me semble-t-il, un film qui retrace les heures héroïques de cette campagne de 1870-71. Un film a été réalisé par Gérard Mordilla, avec notamment dans une distribution assez belle, François Cluzet, Virginie Ledoyen, etc. Le film s'appelle « La forteresse assiégée » et ce film, eh bien, il a été coupé en petits morceaux, si vous voulez, et le public le... suit par épisode tout au long de son parcours à travers le monument. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans une salle, lorsque vous êtes dans un des points avancés de la citadelle, etc., vous avez l'extrait du film qui vous montre les mêmes lieux pendant ce siège de 1870-71. Si vous voulez, vous avez comme ça un aller-retour permanent entre le décor et son histoire. Ça offre une plongée de quelques 135 ans en arrière. Je trouve que c'est une façon exemplaire de mettre en scène un édifice. On doit la scénographie à Frédéric Ravatin et c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire donc pour animer le patrimoine. Vous avez là un site qui est très intéressant, surtout pour des spécialistes, mais qui en soi-même n'est pas extrêmement attrayant, et vous en faites un véritable pôle touristique en l'animant et en montrant à ceux qui le visitent à quel point ce site a pu être au cœur d'événements extrêmement importants. Alors si cet été vous n'avez pas le loisir d'aller visiter la citadelle de Beach, sachez que ce film, monté en docufiction, il sera présenté sur Arte au printemps 2007. Donc tout le monde en bénéficiera, nous aurons la possibilité de revivre ce siège de Beach. Alors depuis la citadelle, nous allons nous revenir vers l'ouest, vers le cœur de la Lorraine. À Holbach, on attrape la Nationale 62 qui nous ramène vers Sarreguemines. Un mot peut-être sur cette cité, cette petite cité frontalière de Sarreguemines, hein, à la frontière de l'Allemagne. Vous connaissez forcément ses faïences, ses poteries, ses porcelaines de Sarreguemines. On en fait le plein en guise de souvenir généralement quand on voyage dans la région. Toute cette céramique, elle est évoquée dans un musée sur place. Et il y a un des salons du musée qui est complètement orné de fresques multicolores. Mais ce sont des fresques de céramique. C'est assez spectaculaire. Alors, nous continuons. Il faut qu'on avance à grands pas parce que j'ai prévu pour aujourd'hui un trajet relativement important. Donc, on s'en va toujours plus à l'ouest, comme dirait le professeur Tournesol. On passe à Saint-Avold, dont l'hôtel de ville a été installé dans l'ancien château d'Henriette de Lorraine, château qui date du XVIIe siècle. Très remanié là encore. Vous savez, nous sommes dans une région qui a subi pas mal de déboires et où un grand nombre des édifices présentés comme anciens ont souvent été fortement remaniés, notamment au XIXe siècle et même pendant le XXe. Saint-Avold est connu pour son cimetière américain, bien entendu, un des plus grands, un des plus importants d'Europe, quelques 16 000 tombes de soldats américains, qui nous rappellent l'importance des combats dans cette zone, aussi bien pendant la Première Guerre mondiale que même pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur notre route, on avance là sur la Nationale 3, un panneau nous indique sur la gauche, c'est-à-dire côté sud, le château de Pange. Très bel édifice que ce château de Pange, édifice 18e, façade classique, vous voyez, très symétrique, au bout d'une longue allée. Toutes les ouvertures de la maison sont soulignées par cette espèce de pierre de Jaumont qui est blonde, qui est dorée, j'ai envie de dire. Le château a été construit par l'ancêtre de l'actuel propriétaire, il s'appelait Thomas de Pange, on est en 1720, ce monsieur était trésorier des troupes royales à Metz. Vous savez, généralement, quand vous faites des finances avec les campagnes militaire, ça rapporte. Et on le voit que ça rapportait en l'occurrence puisque le château est très beau. Tout simplement, Thomas de Pange avait rasé l'ancien château qui était 15-16e et il a reconstruit cet édifice 18e absolument somptueux. Il y a, c'est une toute petite parenthèse que je fais, il y a une espèce de charme particulier de ces châteaux du début du XVIIIe siècle. Vous savez, cette période de la Régence, tout simplement, entre 1715 et 1725, grosso modo, qui avait encore toute la majesté Louis XIV, mais dans laquelle se dessinent déjà les prémices de ce qu'on appellera le goût rocaille plus tard, et qui présente l'élégance, les courbes, les formes un peu folles du style déjà Louis XV, quelque part. Alors, en bordure de l'édifice, vous avez un petit cours d'eau, la Nide française, qui est un affluent de la Moselle, évidemment. Et autrefois, cette Nide, elle faisait la frontière entre le duché de Lorraine et les trois évêchés. Eh bien, quand vous allez vous promener, vous descendez de ce côté-là, la façade du château s'ouvre littéralement entre deux pavillons en retour. Vous avez un très beau perron, là. Alors, on est, bien entendu, dans l'art français immémorial, mais on est surtout, on est d'abord en pays messin. Je vous ai parlé, de ce matériau particulier, hein, de cette pierre de Jaumont, mais d'une façon générale, les toiles et même les ouvertures ont une forme un peu spécifique. Et ce pays messin, eh bien, il va nous servir en quelque sorte d'antichambre au cœur même de cette émission d'aujourd'hui, puisque Metz est là, qui nous attend à une dizaine de kilomètres. Avant d'entrer dans Metz, si vous voulez, je voudrais juste faire un petit crochet vers le sud et la vallée de la Seille, jusqu'à un site exceptionnel et qui entre dans la catégorie de ces trésors que je m'applique à vous dévoiler pendant tout le cours de ces promenades estivales. C'est le site de Sillegny, un petit village largement détruit en 1944. Mais alors, il y a eu un peu un miracle là-bas, et on l'a vu ça, il y a un feuilleton télé qui en a tiré un parti magnifique. Le village a été, on va dire, quasiment rasé, en tout cas fortement détruit, et au milieu, l'église Saint-Martin du 15e, une église gothique flamboyant, on est dans la toute fin là, du Moyen-Âge, cette église, elle est restée debout. Et c'est un double miracle parce que, bon, extérieurement, il n'y a pas énormément à dire sur cette église, elle a un clocher, des traces de fortifications, etc. Mais quand vous entrez, Alors là, quand vous entrez, la surprise est de taille. Vous découvrez des fresques absolument extraordinaires. Elles avaient été complètement ensevelies, cachées par un crépi. Et en 1845, on a enlevé ce crépi complètement banal et on a découvert, incroyable, gigantesque, courant les murs, ce vaste imagier naïf qui a donné d'ailleurs à l'église le surnom de Sixtine Campagnarde.
Quand t'as passé le col du Grand Gypaète, t'attaques la montée des Sapinières, la côte de la Croix Ferrée, t'arrives sur le col de Millepertuis et c'est l'arrivée, enfin si t'arrives, parce que ça arrive qu'il y en a qui n'arrivent pas. Hein.
Ce soir, dans Europe Sport, les vrais spécialistes du cyclisme gagneront peut-être un vélo avec le Crédit Immobilier de France. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier.
Dans l'objectif des photographes de Paris Match, des artistes et des stars d'hier et d'aujourd'hui. Venez découvrir avec Europe 1 l'exposition Artistes et Stars au musée Jacquemart-André. Une collection unique de photos Paris Match. Artistes et Stars au musée Jacquemart-André à Paris. Du bonheur en images.
L'eau fait partie de nous, mais c'est une ressource qu'il faut penser à économiser.
Pour nettoyer ma voiture, je vais dans une station de lavage. 60 litres seulement contre 200 litres avec le jet d'eau, y a pas photo.
Moi, je fais toujours réparer mes robinets qui goûtent. Sinon, c'est des centaines de litres d'eau potable perdue.
Comme beaucoup d'agriculteurs, j'ai choisi des cultures qui demandent moins d'eau en période sèche. Et j'arrose pas en plein soleil.
En surveillant notre consommation, nous pourrions économiser 3 milliards de litres d'eau par jour. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire.
Ceci est un message du ministère de l'écologie et du développement durable ainsi que des agences de l'eau.
TNT ou comment passer de 6 à 18 chaînes gratuites en 3 points. 1. Passer au magasin, acheter de l'adaptateur numérique.
Oui, ça veut dire qu'il faut juste prendre l'adaptateur.
2. Passer au numérique en branchant l'adaptateur.
Donc là, il dit que c'est pas très compliqué.
3. Passer de bons moments sur les 18 chaînes.
Oui, là, il dit que l'image et le son numérique, c'est très bien.
Je vous remercie.
TNT, votre télé en numérique pour 0 centime par mois, seulement.
Nous retrouverons Franck Ferrand aux portes de Metz.
Et oui, et puisque nous sommes aux portes, si vous voulez, on va bientôt y entrer dans Metz. Metz, très jolie ville enserrée dans les bras de la Moselle. Metz, ville verte, pour ne pas dire écologique. D'ailleurs, le premier institut européen d'écologie s'est installé là dans l'ancienne... Je dis le premier, en tout cas, un institut européen d'écologie s'est installé dans l'ancien couvent des Récollets. Alors, il faut monter, pour apprécier toute la situation de Metz, il faut monter jusqu'en haut de l'esplanade. Et vous avez là cette étrange ville qui s'étend, ville à la fois très ancienne, comme en témoigne notamment la porte des Allemands, qui date du Moyen-Âge. On appelle ça la porte des Allemands, mais en fait... Vous avez l'impression que c'est un château fort entier, il y a deux grosses tours, c'est très massif, et puis, en même temps, ville largement détruite et beaucoup reconstruite, forcément. Elle a notamment été la vitrine de l'urbanisme allemand pendant la période où la Moselle était allemande, entre 1871 et 1919. Le quartier de la gare, notamment, a conservé un grand nombre de ces édifices du début du XXe siècle, édifices néo-romans, je pense à la gare elle-même, qui est quand même une chose extrêmement spectaculaire, cette espèce d'énorme bâtisse 1908, pas très légère, faut bien le dire, et puis des édifices néo-gothiques, néo-renaissance, etc. Metz fait partie de ces villes qu'on ne peut comprendre, en réalité, qu'en revisitant leur histoire. Et c'est comme ça qu'on peut se faire une idée des enjeux qui ont été les siens. Vous savez, Metz a été au cœur d'un grand nombre de conflits. Alors, à l'époque romane, on l'appelait Divodurum. C'était déjà une grande ville. Elle avait quelque 40 000 habitants. Et pendant toute la période gallo-romaine, Metz, enfin Divodurum, est en fait une ville. C'est un centre en quelque sorte. C'est un lieu de croisement routier notamment, ce qui est essentiel pour l'époque. Alors, les Huns sont arrivés là-dessus, les invasions barbares, n'est-ce pas ? Il faudra attendre un siècle après le passage d'Attila pour que Sigisbert, le roi mérovingien, en fasse la capitale du royaume d'Austrasie. C'est une période de prospérité qui d'ailleurs va s'étendre pendant assez longtemps, jusqu'après le XIe siècle. Au XIIe, la ville libre de Metz devient, si vous voulez, une sorte de satellite de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique. On parle d'ailleurs d'une république messine. Et jusqu'au XVIe siècle, les bourgeois de la ville vont essayer de défendre leurs privilèges et leur indépendance, indépendance très menacée au XVIe siècle par le duc de Lorraine. Et c'est le moment où les Messins demandent le soutien du roi de France Henri II. Et Henri II leur apporte ce soutien en 1552, mais en échange de la perte de la franchise fiscale pour la ville. Charles Quint vient d'ailleurs mettre le siège sous les murs, c'est un échec. Il faudra attendre 1871 pour que le tout nouvel empire d'Allemagne prenne donc possession de Metz, en même temps que de toute l'Alsace et de la Moselle. D'ailleurs, les Allemands, on l'a oublié aujourd'hui, mais les Allemands ont réannexé tout ça en 1940 par la suite. Alors, si j'ai repris toute cette histoire à très grands traits, c'est pour mieux vous faire comprendre l'ampleur des vestiges de cette ville, mais aussi la profondeur de ses meurtrissures. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Metz a de beaux restes. Et je vous en conjure, il faut aller visiter, je ne vous conseille pas souvent d'aller visiter des musées, mais là, il faut aller voir le musée d'art et d'histoire de la ville, qui du reste est superbement installé dans d'anciens édifices, des édifices qui ont été construits pour l'essentiel au XVe et XVIe siècle. Et notamment, dans ce musée, vous allez admirer les plafonds de l'hôtel du Vouet, qui date du début du XIIIe siècle, de 1225, et les plafonds en question représentent un véritable bestiaire, un bestiaire médiéval hallucinant comme on savait les composer à l'époque. Ça fait penser à une sorte de bande dessinée fantastique, si vous voulez. Et puis, vous verrez également dans le même musée le fameux chancel, c'est-à-dire en fait la clôture du chœur de l'église Saint-Pierre aux Nonains. Ça, c'est décoré de 34 panneaux sculptés, et c'est une des grandes émotions qu'on peut avoir en visitant cette ville. Quant à l'église elle-même, l'église de Saint-Pierre aux Nonains, elle est établie dans un ancien édifice civil gallo-romain du IVe siècle, ce qui fait, en toute simplicité, que l'église peut être considérée comme une des plus vieilles églises de France. Vous me concéderez volontiers, Anaïs, que ce n'est pas peu dire que la plus vieille ou l'une des plus vieilles églises d'un pays qui en compte tellement. Alors, il faut vous promener à pied dans Metz en partant de la place d'Armes. La cathédrale est magnifique, l'hôtel de ville, il faut passer, je dirais pas qu'il est magnifique, mais il est assez imposant. Par la rue du Vivier, vous gagnez la Moselle, qu'il faut traverser jusqu'à la place de la Comédie. Et là, vous trouverez le plus vieux théâtre de France encore en activité. Et tout près de là, la préfecture, qui est l'ancien hôtel de l'intendance, et c'est sans doute ce qui explique sa somptuosité à cet hôtel de la préfecture. Depuis le pont des Roches, vous avez une vue sur le temple neuf, qui a été construit, temple protestant bien entendu, qui a été construit par les Allemands dans un style néo-roman qui leur était cher, comme vous avez compris maintenant. À ce propos, juste un mot sur une belle exposition qui sera présentée l'hiver prochain au temple neuf de Metz, une exposition qui s'intitule Les Huguenots, tout simplement, et qui retracera la destinée de ces protestants chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et pour suivre le périple, pour retracer la dure aventure de tous ces gens, eh bien, on suivra l'exemple de la famille Ancillon. Donc cette exposition a lieu à partir du 10 novembre prochain au Temple Neuf de Metz. Le 10 novembre, ça nous laisse quand même le temps de nous retourner. Alors à partir de Metz, il est très recommandé, c'est ce que nous allons faire évidemment, de pénétrer en plein parc naturel régional de Lorraine pour suivre notre chemin en direction de Bar-le-Duc. Mais il existe évidemment d'autres options possibles, et notamment deux très intéressantes que nous allons évoquer grâce à cette belle et déjà si vieille invention du téléphone. Nous allons dans un instant aller nous promener du côté d'Aumès et du côté de Verdun.
Dans les jardins de Kerling Square, une fille en tenue légère, tendrement baignée de soleil, se pavanait sous une ombrelle. Dans les jardins de Kerling Square, elle a fait rêver son parterre. Le square est mévisé, son monde est si bien dessiné. Dans les jardins de Kerling Square, la belle a déjeuné sur l'herbe. Des photographes de passage décident de voler sous l'image. la caresse de mon pinceau sur la toile. En fin de journée, je la remballe. Moi, je la caresse de mon pinceau sur la toile. En fin de journée, je la remballe. Un papillon sur son épaule rend jaloux les intéressés. Elle feinte d'ignorer son rôle, mais quel espoir, il bouge plus. Qui sera donc l'aventurier, le premier à s'aventurer? Une tentative, l'air de rien, un courant d'air dans le dessin. Dans les jardins de Kerling Square, peuplés d'espions et de voyeurs, on se rassemble pour l'occasion, près de lui demander son nom. Moi, je la caresse de mon pinceau sur la toile. En fin de journée, je la remballe. Moi, je la caresse de mon pinceau sur la toile. En fin de journée, je la remballe. Dans les jardins de Kerling Square, une fille en tenue légère, tendrement baignée de soleil, se baladait sous une ombrelle. Dans les jardins de Kerling Square, elle a fait rêver son parterre. Le soir est médusé, son ombre est si bien dessinée.
Christophe Mali, Kerling Square. Alors je ne sais pas, Franck, s'il y a un Kerling Square à Bar-le-Duc ou à Metz, vous allez nous en dire mais plus.
Oui, il y en a dans chaque ville de Lorraine, c'est bien connu.
Ah oui.
C'est bien connu, c'est une des caractéristiques locales, bien sûr. Alors, puisque nous étions à Metz il y a un instant, j'en profite pour rectifier. Hier, j'ai dit, toujours emporté un peu par mon enthousiasme, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette région, j'ai dit que Nancy était capitale de la Lorraine. Alors attention, Nancy est aujourd'hui la capitale de la région administrative Lorraine, mais il n'y avait pas de capitale au sens propre de la Lorraine, pour la bonne raison, c'est que le duché de Lorraine, vous savez, a changé un certain nombre de fois de conformation, et c'est Patrice, un de nos auditeurs, qui me rectifie tout ça et qui donne toutes les précisions utiles, et je crois qu'il a raison. Il nous dit notamment que Metz autrefois n'appartenait pas au duché de Lorraine, c'est ce que je vous disais. Metz effectivement était plutôt du côté des Trois-Évêchés. Bon, bref, donc Nancy est aujourd'hui la capitale du duché de Lorraine, et vous aurez remarqué qu'avec une diplomatie qui n'appartient qu'à cette antenne, nous avons consacré une première émission aux environs de Nancy et une deuxième aujourd'hui aux environs de Metz. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je crois que la Lorraine a tout intérêt à cultiver ses richesses et à développer toutes ses richesses plutôt qu'à essayer de se faire la guéguerre entre Metz et Nancy, ce qui n'a évidemment plus aucun sens. Alors, je vous disais donc qu'à partir de Metz, nous allions, nous, uniquement par voie téléphonique, remonter plein nord vers Thionville et au-delà, pour visiter le musée minier d'Aumesse, près de la frontière luxembourgeoise. Je dis musée minier, c'est la mine de Bassompierre en l'occurrence, et c'est une mine un peu particulière puisque c'est une mine de fer. Et pour en parler, nous avons au téléphone Antoine Bach. Bonjour Antoine Bach, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Franck, je suis très heureux d'être avec vous. Franchement, ça me fait plaisir.
Eh bien, nous, c'est un plaisir partagé. On adore la Lorraine, j'étais en train de le dire il y a un instant.
Merci.
Alors, dites-nous un peu de quand date ce musée et de quoi il provient.
En fait, nous avons créé un écomusée des mines de fer de Lorraine qui comprend deux musées, un à Aumesse et un à Neufchef.
Mm-hmm.
Les deux se complètent admirablement bien. À Neufchef, vous rentrez sous terre, vous allez visiter une véritable mine de fer, c'est enfin le point d'orgue. Et deuxièmement, à Aumesse, vous avez le chevalement et toutes les installations de surface.
Alors, est-ce qu'on la visite vraiment, la mine de fer?
Ah, la mine de fer, quand vous venez à Neufchef, tout à l'heure, dans un quart d'heure, vous allez avoir des visiteurs qui vont rentrer au fond de la mine pour découvrir l'univers.
Je vous demande ça parce que vous savez qu'il y a ce musée minier, alors cette fois, mine de charbon, évidemment, ce minouillère de l'Evard.
De l'Evard, oui.
Hein, de Leeward, donc dans le nord, là-haut, du côté. Oui. Bon. Et ce musée qui est tout à fait passionnant vous propose une visite dans les mines, et en fait, vous vous rendez compte que le pseudo-ascenseur est en fait un trucage, tout et qu'on vous fait tout visiter en surface. Alors, chez vous, ce n'est pas le cas.
La différence fondamentale chez nous, c'est qu'il n'y a pas de grisou dans les mines de fer.
Ah oui.
Et donc, dans une mine à flot de coteau, vous rentrez et vous découvrez toute l'histoire des mines, des origines à nos jours.
C'est quand les origines, en fait?
Alors, les origines, c'est dans notre région 1820, mais bien avant les Celtes aussi. Hein, on a exploité le minerai très, très tôt.
En fait, on a oublié un peu aujourd'hui le rôle absolument majeur du fer dans la civilisation. Ça fait partie de mes marottes, j'ai eu l'occasion de le répéter assez régulièrement, mais vous savez, la découverte, le travail du fer, son alliage à toutes sortes d'autres métaux ont littéralement révolutionné les mœurs. Et bien entendu, ça a eu une importance considérable. Et est-ce qu'on exploitait le fer dès les époques celtiques dans cette région nord de la Lorraine?
Oui, tout à fait. Hein. Déjà au Celtes, on exploitait le minerai de fer. Mm-hmm. Ensuite, l'industrialisation a démarré vers 1800-1860. Et là, on a eu vraiment une explosion dans notre région, la Lorraine étant la région la plus prolifique en exploitation du minerai de fer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une culture qui s'est développée autour de ces mines, tout un mode de vie particulier, évidemment.
Tout à fait. Il faut savoir que la Lorraine, si elle a été une région industrielle, c'est grâce justement à ce minerai de fer. Et ce minerai de fer, l'exploitation de ce minerai de fer a drainé vers notre région des flux de migratoires de populations qui ont venu enrichir, si vous voulez, notre région, parce qu'il fallait de la main-d'œuvre, il fallait des bras pour aller dans la mine, parce que la mine était quand même un lieu dangereux, un lieu mystérieux. Il fallait des gens qui sachent travailler, qui sachent risquer un peu leur vie là-dedans.
On descend à combien, là, sous terre?
Ben, écoutez, là, c'est sympa. Hein. On descend à 260 mètres.
Ah oui,
Il
faut pas être claustrophobe pour votre visite.
Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à Neufchèvre, on va à flotte coteau. C'est-à-dire qu'on est dans une belle vallée et on rentre de plein pied dans la colline. Mmh. Et là, au fur et à mesure que vous avancez dans les chantiers, vous avancez dans l'histoire des mines de fer. Je répète, des origines, 1820 dans cette région, jusqu'à 1997, date de la fermeture de la dernière mine de fer.
C'est très récent, hein, cette dernière fermeture. Alors, bien, j'imagine que c'est directement lié à la crise industrielle et métallurgique, évidemment.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que le minerai de fer lorrain n'était pas riche, il faisait seulement 30% de teneur en fer. Et quand on a découvert les minerais beaucoup plus riches, où ça, au Brésil, au Venezuela, en Australie, on a préféré carrément aller chercher ce minerai carrément ailleurs.
Vous avez des anciens mineurs qui font visiter?
Ah ben écoutez, les guides, justement, la richesse de notre musée, c'est que nous faisons visiter le musée par des anciens mineurs. Quand vous venez un jour dans la région, il faut venir voir.
Il faut en profiter pour aller au Luxembourg et tout ça. Là, nous nous sommes cantonnés cette année aux régions de France, mais c'est vrai que ce serait intéressant de parler aussi de toutes ces régions frontalières. Pourquoi pas aussi?
Pourquoi pas?
Merci infiniment, Antoine Bach, vous nous donnez envie d'aller voir tout ça. Merci beaucoup.
Et un grand merci à vous. Hein. Merci. Au revoir.
Alors, pour reprendre pied sur notre pivot du jour, ou notre centre de gravité qui donc est Metz, il était également possible de filer plein ouest en suivant le tracé de l'autoroute A4, et ça jusqu'à Verdun. Vous savez que depuis près de 2 mois, on célèbre à l'échelle nationale et internationale le 90e anniversaire de cet événement parmi les plus sanglants, les plus affligeants de l'histoire, cette bataille de Verdun qui en 1916 et 1917 aura coûté la vie à quelque 800 000 hommes. Pour évoquer cet anniversaire, nous avons en ligne la responsable de la mission mémoire au Conseil Général de la Meuse. Bonjour Véronique Arel.
Bonjour.
C'est presque un duplex que nous établissons. Vous voyez, nous sautons comme ça des mines de fer d'Aumès jusqu'à votre Verdun. Ces célébrations ont eu lieu en grande partie pendant le mois de juin, il faut bien le dire.
Oui, nous avons pendant tout ce mois eu de nombreuses cérémonies, une en particulier auprès des jeunes, où nous avons rassemblé 1916 jeunes autour du thème de la paix, et c'était une cérémonie extrêmement forte. Ensuite, nous avons eu toute une série de concerts et de pièces de théâtre, et puis une exposition qui a commencé le 2 juin, qui elle porte sur les plaques stéréoscopiques.
Voilà. Alors, si, s'il y a parmi vos auditeurs des personnes équipées de, qui nous écoutent sur Internet, ils ont peut-être pu voir par le webcam que nous avons des lunettes rouges et bleues dans le studio pour voir justement votre dossier de presse. Vous exposez des clichés en relief.
Tout à fait. Et par un procédé extrêmement nouveau, c'est une première technique mondiale, parce que nous les montrons dans un format jamais encore vu. Nous sommes dans une échelle 1-1, donc dans un format
c'est très grand,
extrêmement
en fait.
Grand.
Oui, c'est prêt. C'est pas grandeur nature, bien sûr, mais ça donne l'impression. Presque. Ça donne l'impression de la grandeur nature, en fait. Oui, c'est
oui,
ça.
Oui, on a vraiment l'impression, et c'est étonnant, et c'est, ça donne une émotion extraordinaire parce que on a l'impression qu'on va toucher ces hommes.
Mais bien sûr.
Et ça donne. Ça donne un peu la chair de poule même.
C'est,
voilà.
Oui, évidemment. C'est un gros paradoxe, que cette histoire de la Première Guerre mondiale, sur laquelle j'ai eu l'occasion déjà de parler souvent. C'est un paradoxe de voir que nous sommes là, je pense, au tréfonds de l'horreur. Cette bataille de Verdun a été une boucherie, pour employer le terme habituel et pas très élégant, absolument épouvantable. Et en même temps, il s'y attache, je dirais pas une nostalgie, ce serait déplacé, mais il s'y attache quelque chose de, qui prend au cœur, si je puis dire. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que les visiteurs que vous rencontrez vous le disent?
Oui, ils sont extrêmement, je dirais, il y a une émotion, voilà, qui est
exactement
palpable. Il y a une émotion, les gens sont à la recherche d'un souvenir, de ce que tous ces hommes ont pu vivre. Voilà, on est à la recherche, non pas de la peur, mais d'essayer de comprendre comment ils ont pu tenir aussi longtemps.
C'est ça, parce qu'il y a évidemment dans cette guerre de position et dans ces assauts répétés pour prendre quelques arpents de terre, littéralement, hein, c'est le fort d'Hautmont, etc. Il y a bien entendu la peur qui est omniprésente, mais il y a aussi, au-delà de l'héroïsme et du courage, etc., il y a aussi un élément essentiel qui est la résistance, qui est l'endurance en quelque sorte. Et si vous arrivez à transmettre ça, si vous arrivez à le faire comprendre aux gens, je trouve que c'est magnifique en fait.
Bah, écoutez, nous avons essayé par des moyens, je dirais, qui sont des moyens modernes, de retranscrire un petit peu toutes ces émotions, toutes ces peurs, parce que ils vivaient dans des conditions tellement abominables, dans la boue, le froid, la pluie, avec ces morts partout présents, parce que la mort, elle est omniprésente. Les cadavres sont là, à côté de vous, et vous vivez avec.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, puisqu'on parle de l'émotion qui s'attache à ces terribles souvenirs, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre opération des bleuets, que je trouve parfaitement exemplaire?
Oui, alors c'est une très belle opération, parce que nous avons décidé de fleurir toute la voie sacrée, qui était une voie extrêmement importante, parce que c'est elle qui a permis à la bataille de se faire, si l'on peut dire, puisque tous les hommes étaient acheminés par cette voie. Et donc nous avons planté des milliers de bleuets qui sont maintenant en plein fleurissement. Alors ils le sont depuis maintenant une ou deux semaines, et ça fait des coloris bleus extrêmement beaux, et il y a c'est extrêmement, je dirais, romantique et à la fois terrible.
On ne peut pas s'empêcher d'avoir un pincement au cœur à la pensée de ces 800 000 hommes qui ont donné leur vie à ce moment-là, dans les deux camps, je précise, évidemment. Merci beaucoup, Véronique Harel. Je rappelle que vous êtes responsable de la mission mémoire au Conseil général de la Meuse. Dans un instant, nous allons nous promener de façon un peu plus légère, si vous le voulez bien, dans le parc naturel régional de Lorraine.
À tout moment, la vie d'un homme tranquille peut basculer. A History of Violence, une famille menacée, un homme rattrapé par son passé.
Moi, la vérité, qui es-tu?
Jusqu'où iriez-vous pour protéger les vôtres? Comment il fait pour être si doué pour tuer son prochain? A History of Violence, le film choc de David Cronenberg, en DVD, avec un repas.
Carglass répare, Carglass remplace.
Mon client, il avait un pare-brise fissuré. Il a eu le réflexe Carglass. Bien sûr, on lui a remplacé son pare-brise. Et pour lui faciliter ses formalités, on a pris directement contact avec son assurance.
Appelez le 0800 77 24 24. Comme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Carglass répare, Carglass remplace.
Dans France Dimanche cette semaine, Claire Chazal au cœur d'un effroyable scandale. Caroline de Monaco, ses enfants menacés de rapt. Et aussi le cadeau de l'été, votre roman feuilleton, Meurtre dans la Jet Set. Deuxième épisode. France Dimanche. toutes les émotions des stars. Chaque vendredi, chez votre marchand de journaux.
L'eau fait partie de nous, mais c'est une ressource qu'il faut penser à économiser.
Pour nettoyer ma voiture, je vais dans une station de lavage. 60 litres seulement contre 200 litres avec le jet d'eau, y a pas photo.
Moi, je fais toujours réparer mes robinets qui goûtent. Sinon, c'est des centaines de litres d'eau potable perdue.
Comme beaucoup d'agriculteurs, j'ai choisi des cultures qui demandent moins d'eau en période sèche. Et j'arrose pas en plein soleil.
En surveillant notre consommation, nous pourrions économiser 3 milliards de litres d'eau par jour. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire.
Ceci est un message du ministère de l'écologie et du développement durable, ainsi que des agences de l'eau.
Et nous retrouvons Franck Ferrand. On continue notre balade, Franck.
Mais oui, alors on est sorti de Metz, mais cette fois nous en sortons physiquement, si je peux dire, et pas seulement par téléphone interposé. À la sortie, donc sur la rive ouest de la Moselle, on va faire un tour à Sichazel, qui est la réunion de deux communes en fait. Hein. C'est comme
pas
souvent.
Pas de six.
S-S-C-Y, le si en question. Et c'est là que se trouve, parmi d'ailleurs de belles demeures bâties par les vignerons messins, c'est là que se trouve la maison d'un des pères de l'Europe communautaire, Robert Schumann. Aujourd'hui, la maison a été transformée en musée. Alors, dans le parc, vous avez une sculpture de Le Chevalier qui représente la flamme européenne, tout un programme. Et depuis la terrasse, quand vous montez, quand vous prolongez la promenade, vous avez une terrasse en surplomb d'où votre regard s'en va se perdre dans la vallée de la Moselle et le plateau lorrain. Toute cette campagne avec ses forêts, ses rivières, ses grandes cultures aussi, nous sommes dans une grande région agricole, toute cette campagne est semée de villages de caractère avec leurs églises fortifiées, comme celle de Chazel justement, qui se trouve en bas, ainsi sur le haut, sur le coteau, Chazel en bas. Et puis leur ferme château, comme du côté de Gorze, aux confins de la forêt du même nom. À Gorze, vous avez une vieille abbaye qui a été fondée, alors là, au temps carolingien, hein, au 8e siècle. Je dis carolingien, d'ailleurs, 8e siècle, on était même au temps mérovingien, pour être plus précis.
Mais c'est dû rectifier.
Tout le monde avait rectifié. Et abbaye qui a été détruite au 16e siècle. Dans l'église de ce village de Gorze, le grand Christ en bois serait, dit-on, c'est même quasiment sûr, de Ligier Richier, ce sculpteur de génie, Ligier Richier, dont nous allons parler là dans un instant. J'aimerais juste avant ça vous présenter ce parc naturel extraordinaire de 180 000 hectares avec ses lacs, ses sentiers, son merveilleux parc ornithologique. Il y a beaucoup parmi nos auditeurs d'amoureux des oiseaux, je le sais grâce au courrier notamment, et c'est vrai que là en l'occurrence le parc ornithologique de Lorraine est magnifique avec un centre équestre, etc. Nous sommes sur la D901 qui passe par Hatton-Châtel, très beau village médiéval qui est perché à 400 mètres et qui surplombe la plaine de Vouèvre. Alors, ce village accueillait le château, d'où son nom, Hatton-Châtel, le château des évêques de Verdun. Or, ce château, il a été, mais alors, rasé pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que une riche américaine qui venait, après la guerre en 1923, voir les lieux où était mort, certains disent son neveu, d'autres son fiancé, vous me permettrez de préférer la deuxième version, c'est tellement plus romantique, eh bien elle était non seulement amoureuse de ce pauvre soldat américain mort ici, mais elle est tombée amoureuse de la région finalement, elle s'y est installée et elle n'a eu de cesse, elle s'appelait Miss Skinner, elle n'a eu de cesse, elle était très riche, que de reconstruire le château d'Hatton-Châtel, sauf qu'elle en a fait une sorte de grand décor hollywoodien digne d'Ivan Noé ou de Robinson et Marianne. C'est une curiosité locale, il ne faut pas hésiter à voir ça. Et justement, nous avons à main gauche le lac de Madine et la grande rotonde en forme de tholos grec, une sorte de grand temple à ciel ouvert, si vous voulez, qui est le mémorial américain de la Grande Guerre, construit en 1932. C'est une occasion de plus de rappeler tous ces combats qui ont eu lieu, notamment là, dans le secteur de Saint-Mihiel. Alors nous y arrivons justement à Saint-Mihiel, parce qu'il faut avancer. Saint-Mihiel, ancienne capitale du Barrois, dominé au nord par ces falaises, des falaises impressionnantes, hein, des roches coralliennes qui sont une véritable curiosité géologique et qui ont pris le nom de Dames de la Meuse. Les Dames de la Meuse, ce sont ces espèces de grandes parois composées de 7 rochers au pied desquels la ville s'est littéralement appuyée. D'ailleurs, ces rochers, ils ont donné sa devise à la ville, puisque la devise c'est « Donec moventur », c'est-à-dire « jusqu'à ce qu'elle bouge ». Je pense que ça laisse venir, là encore, ça laisse du temps. Évidemment, Saint-Mihiel, et j'en disais un mot à l'instant, c'est d'abord la patrie de ce grand sculpteur qu'a été Ligier Richier. Ligier Richet, dont la légende nous raconte qu'il n'était autre qu'un petit bouvier auquel on n'avait pas donné d'enseignement particulier, et qui un jour était en train, avec son canif, de sculpter comme ça dans un morceau de bois, et un voyageur passe, voyageur italien, et la légende dit que le voyageur en question, en route pour Paris, c'était Michel-Ange en personne, oui, et que Michel-Ange aurait reconnu Ligier Richet, qu'il en aurait fait son élève, etc. Bon, c'est une légende. En réalité, Ligier Richet, qui est né donc ici en 1507, est parti de son propre chef pour l'Italie. C'est lui qui a fait le chemin vers les grands maîtres de la Renaissance italienne pour apprendre cette technique incomparable qui fait de lui peut-être le plus grand, en tout cas l'un des plus grands sculpteurs français, au moins jusqu'à Pierre Puget, jusqu'au XVIIe siècle à mon avis. Alors on voit toujours sa maison natale à Saint-Miguel, elle se trouve 7 rue Haute des Fossés, le plafond. En terre cuite de la maison serait de la facture de Richier, dit-on. Hein. C'est lui qui l'aurait d'ailleurs inventé. C'est que ces gens étaient à l'époque des polytechniciens. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient Félix, mais qu'ils maîtrisaient un nombre incroyable de techniques. Et surtout, à l'église Saint-Étienne, il faut absolument aller voir le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Ligier Richet, en l'occurrence ce fameux sépulcre, hein, qui est une déposition de croix, si vous voulez, juste une mise au tombeau du Christ, composée de 7 grandes statues. Je dis grandes, elles sont plus grandes que nature, et elles sont aussi grandes par leur expression, par leur intensité. C'est un véritable, c'est un grand chef-d'œuvre que ce sépulcre de Ligier Richet dans l'église Saint-Étienne de Saint-Miguel. Ce n'est pas le chef-d'œuvre le plus connu du maître. Le plus connu, si vous voulez le voir, il vous faudra parcourir encore une bonne vingtaine de kilomètres, toujours vers l'ouest. On n'aura fait que ça depuis le début de cette émission, avancer toujours plus à l'ouest. Il faut aller à Bar-le-Duc pour le voir, bien entendu, dans l'église, qui s'appelle l'église Saint-Étienne également d'ailleurs, où se trouve le fameux transi, que l'on appelle parfois l'écorché, et qui est une espèce de squelette en fait, mais un squelette ultra réaliste, sculpté par Ligier Richet en 1545 pour orner le tombeau de René de Chalon. C'était l'époque où un certain nombre, on est en pleine deuxième, ce qu'on appelle la deuxième Renaissance française, c'est une époque où les tombeaux des grands personnages sont presque toujours non seulement monumentaux, mais de véritables chefs-d'œuvre, et d'architecture, et de sculpture. En l'occurrence, l'écorché de Richet, c'est quelque chose, imaginez, d'espèce de personnage complètement décharné, il est debout, on voit les os, hein, bien entendu, c'est quasiment un squelette, et il tend à bout de bras son cœur vers Dieu. C'est d'une précision anatomique sidérante, et paradoxalement, c'est d'une humanité qui ne peut que bouleverser les spectateurs. Alors après ça, vous pourrez toujours aller vous promener en ville à la recherche d'un pot de confiture de groseilles et pépinées, par exemple, puisque ça c'est la grande spécialité locale, ou bien vous pourrez aller chercher l'ombre d'une vieille maison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Saint-Miguel en est littéralement garni. Parmi les vieilles maisons, j'aurais pu en citer un certain nombre, mais après tout, égrener des noms au micro n'a pas tellement de sens. Ce qu'il faut, c'est donner envie d'y aller.
Envie de s'y rendre.
Il y en a une, c'est l'ancien collège Gilles de Trèves, qui est absolument magnifique. La cour, notamment, est d'une beauté absolument ravissante. C'est cette maison-là dont Montaigne, en son temps, a pu dire qu'elle était, je cite, « la plus belle maison de ville qui soit en France ».
Si Montaigne le dit.
Hein, c'est un bon conseil, un bon guide quand même. Voilà, c'est par ce conseil et par cette maison et par cette œuvre extraordinaire de l'écorché de Richet que nous allons nous quitter, dire au revoir à la Lorraine, dès lundi, parce qu'on n'a que le dimanche de pause, hein, dès lundi à 13h15.
Alors le dimanche, je suppose que vous visitez, lundi, vous nous donnez un compte-rendu.
J'ai eu la chance de visiter depuis longtemps, heureusement, parce que sinon je serais mal quand même.
C'est vrai quand même.
Lundi, nous serons, lundi, mardi et mercredi, nous serons en Normandie, et lundi notamment, nous irons du côté de Bayeux et du côté du Mont-Saint-Michel, où vient de s'ouvrir à Avranches exactement le nouveau scriptorium de Normandie.